Bonsoir. Je ne vais pas vous dire que je suis stressé. Gérard Gaud ne me croirait pas. J'aimerais que nous passions quelques jours ensemble sous le regard du Seigneur en se disant que nous sommes sous son regard. Ce soir, il n'y a pas Monsieur Roussel, le pasteur Roussel. Il y a ses enfants qui écoutent. Le bon Père Céleste. Il a de bonnes choses à me dire et je veux être à l'écoute. Si vous avez un crayon et un grand carnet, je dis ça pour Jonathan qui a pris un petit carnet, je crois que ce serait bien de noter quelques points afin d'avoir des repères pour vous et pour ceux que vous aurez l'occasion d'aider. Je voudrais tout d'abord dire que ce soir, nous allons parler du stress. Vous savez ce que c'est ? Qui ne sait pas ce que c'est que le stress ? Bien, ça me rassure. Demain matin, nous parlerons de l'angoisse pour un culte. Demain après-midi, nous parlerons de la dépression. Ben voilà. Lundi soir, nous parlerons de la solitude, un des éléments de l'angoisse et de la dépression, et nous terminerons mardi soir par perte d'identité. Seigneur, réapprends-moi à m'aimer, s'aimer soi-même. Est-ce que le programme vous convient ? Quoi qu'il en soit, je ne changerai pas les sujets. Alors, ce n'est pas populaire de parler de la souffrance. Tout d'abord, mon ami Gérard, tu me rassures, j'ai devant moi une pendule. Il y en a une autre là-bas au fond. Tu m'as bien dit que j'avais 3 heures.
Non,
pardon, alors j'ai dû... Non, c'est 1 heure, hein. D'accord. Voilà, si vous êtes fatigué, si vous sentez que vous êtes épuisé, alors le sujet est pour vous. Ce n'est pas populaire de parler de la souffrance. Hein. On m'invite pour parler de la joie, on m'invite pour parler du dynamisme, mais aussi on m'invite pour parler de la souffrance. L'Écriture nous dit de souffrir avec ceux qui souffrent. Et si un membre souffre, tout le corps souffre. On n'est pas indifférent à la souffrance de nos sœurs, de nos frères, des enfants. Des enfants. Qui peut comprendre la souffrance ? Il y avait une femme, je pense que vous la connaissez. Anne, elle s'appelait. Elle est montée dans le temple parce qu'elle souffrait. On reviendra sur elle. Elle souffrait. Et lorsqu'elle est arrivée dans le temple, tout simplement, elle s'est recueillie et tout simplement, elle s'est tenue dans la tente de la bénédiction de Dieu. Et là, le sacrificateur la regarde. Et puis au bout d'un moment, il lui dit « Ma femme, ma brave, tu es ivre. » Elle lui répond « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je répandais mon âme devant l'Éternel. » La lecture des souffrances physiques est relativement facile. Il y a des indices, température, etc. Mais la souffrance intérieure, parfois lorsque un enfant dit « je souffre », allez, fais pas le malin, va à l'école. Et il n'y a pas parfois d'apparence qui peuvent montrer qu'il y a une souffrance intérieure. En sorte que souvent, les gens ne parlent pas de leur souffrance. On parle de plus en plus aujourd'hui du droit à la souffrance. Si nous pensons souvent à la santé physique, il faut savoir que la santé morale, psychique, elle conditionne souvent notre santé physique. En sorte que le Seigneur qui le sait parlera d'une plénitude intérieure. des fleuves de vie qui coulent de notre être, le plus profond du sein de notre être, avant d'arroser les autres. Quelque chose qui doit se passer là. Et je dis, Seigneur, c'est pas ce que je produis à l'extérieur qui va avoir de l'importance, c'est ce qui vient du cœur, et tu nous le dis, c'est du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Rassurez-vous, ce n'est que l'introduction. Théoriquement, les textes bibliques auraient dû apparaître, ou vont apparaître, peut-être que ça va arriver. Mais ce que je pense pour ce soir, l'important, c'est que tous les textes que je vais pouvoir citer, les textes, j'aimerais bien que vous les notiez pour les mémoriser. Vous pouvez m'oublier, c'est difficile. Mais rappelez-vous de la pensée du Seigneur. Le livre des Proverbes, Proverbes 18:4, dit, dans la version Semeur, « Un bon moral permet de supporter la maladie, mais si le moral est abattu, qui le relèvera ?» Parfois on a un bon moral, ça va, mais quand on n'a pas le moral, va-t-on oser le dire ? C'est vrai que le psaume 34 nous dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Aurais-je honte de parler de ma souffrance ?» Et qui aura le courage d'écouter la souffrance de son prochain ? Ce sont des réflexions que nous allons partager durant ces 5 réunions. Je ne parle pas de réponses, parce qu'avant de vouloir donner des réponses, il faut savoir écouter, partager la souffrance. L'Écriture nous dit toujours dans ce même psaume, quand un malheureux crie, quand pendant ce séminaire tu vas crier au fond de ton cœur, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ça vient, hein ? L'Éternel est près de ceux qui ont cœur brisé, il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a de la souffrance. Mais souvent, cette souffrance cachée intérieure qui n'est visible souvent et que trop souvent quand on entend parler de drames, de suicides, les événements récents concernant certaines entreprises nationales nous montrent ces drames. Dans le cœur d'un homme, d'une femme, dans le cœur d'un enfant, je ne vois pas d'enfant ce soir, mais les thèmes que je partage pourraient s'adresser aussi dans le cœur des enfants. Il y a des dépressions, il y a des angoisses dans le cœur des enfants, mais aussi dans l'Église, mais aussi dans l'Église, mais aussi parmi mes collègues pasteurs, parce que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Je suis toujours dans le cadre de l'introduction. Je ne suis pas psy. Je ne suis pas docteur. Cette réflexion que je partage avec vous a été menée à partir de constats des différents problèmes de souffrance que j'ai pu rencontrer dans mon ministère parmi les chrétiens, dans les différentes églises dans lesquelles je suis passé. Mais comme certains le savent, je suis aussi responsable d'une maison de retraite avec un secteur de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, avec un secteur de déficients mentaux vieillissants qui comporte des souffrances que parfois nous écartons parce qu'elles nous semblent bizarres, curieuses, avec des manifestations qui parfois nous gênent. Et le Seigneur nous a donné à mon épouse et à moi de regarder dans les yeux chacun de ces malades et d'apprendre à les aimer. Comme le Seigneur voudrait poser son regard sur nos vies ce soir et pour nous dire, quelles que soient nos situations, il nous aime. Il nous aime. Nous ne sommes pas en dehors. Nous sommes sa création. À partir de situations difficiles, Monsieur Gault, d'une manière très révérencieuse, C'est par quel chemin j'ai pu traverser dans des moments. J'ai connu l'angoisse. J'ai connu la dépression. Et je peux vous dire que le Seigneur a triomphé. Je ne vous parlerai pas de ce que j'ai appris, mais je crois en la réalité, la puissance de vie qui est en Jésus-Christ. Et ce que je sais, c'est que des choses toutes simples peuvent être facteurs de délivrance et de victoire. Je ne viens pas comme un orateur. Je sais ce qu'est la souffrance. Puis, pour avoir côtoyé de près, de loin, des spécialistes, j'ai pu apprendre afin d'aider. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous encourage. Il y aura une part technique, médicale, pardonnez-moi. J'aborderai, et je ne sais pas si on peut avoir le plan du stress de ce soir. Si, le plan du stress. Vous verrez qu'on va définir le stress, on va essayer d'expliquer ce qu'est le stress. On parlera de symptômes, on parlera au travers du stress aussi des conseils pratiques, parce qu'il ne faut pas rester dans une nébuleuse de réflexion, puis les promesses, la guérison et une conclusion. C'est simple sur le papier. Ma plus grande difficulté depuis 8 jours que je me tiens sur le sujet pour vous, ça a été de faire le tri des priorités de ce que je devais vous dire. Le sujet est vaste. Je ne pourrai pas répondre à tout et à tous. Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est pas fini, hein. Permettez que j'enlève. Voilà. Je dis bonsoir à mes collègues. J'en vois. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Définition. Le stress, c'est une agression, c'est un choc, une situation perturbant l'organisme, un ensemble de réactions qui en découlent, caractérisées par une fatigue nerveuse, une tension nerveuse. De l'anglais, effort, tension. Ça donne le stress. Je ne vous parlerai pas de la noradrénaline, ni de l'adrénaline, je laisse ça aux spécialistes, quoique cela mériterait réflexion. Mais je m'arrêterai tout d'abord pour dire quelle œuvre admirable que le Créateur a faite dans notre corps. Mais quelle œuvre admirable! Chaque organe du corps témoigne de la sagesse divine du Créateur. Le système nerveux est extraordinaire. Télécom ne peut pas suivre. À partir du central cerveau et de la moelle épinière, des millions de cellules vont comme sur des lignes, des câbles, des nerfs. Aller se diriger vers chacun de nos organes moteurs. Ils vont venir vers la peau pour qu'il y ait cette sensation, cette sensibilité. Et la peau renvoie le message. Toutes les communications sont extraordinaires. Et c'est ainsi que la circulation sanguine, la respiration, nos 5 sens, l'évolution de notre état psychologique qui est lié, tout cela marche. C'est formidable, hein ? David dit, « Je te rends grâce de ce que je suis un prodige. Une œuvre merveilleuse. » Mon âme le reconnaît bien. Ça voulait pas dire je suis beau, moi. Ça voulait dire quelle œuvre parfaite. Et puis, il suffit qu'il y ait un grain de sable pour que tout se détraque. Et il suffit qu'il y ait un petit quelque chose qui perturbe, et de suite on trouve des expressions que vous connaissez peut-être. J'ai les nerfs. À bout. Quand on rajoute à bout, on ne sait pas si c'est des doigts, des pieds ou de la tête. Et quand les autres, en plus, jouent avec nos nerfs, Je ne vous dis pas qui gagne. Avoir les nerfs en boule, je ne vous dis pas, pour faire le tri dans les câblages après, ça ne doit pas être évident. Alors, on passe à l'étape suivante, essayer d'expliquer ce fonctionnement extraordinaire, mais il suffit d'un surmenage physique ou intellectuel qui peut toucher l'adulte comme l'enfant. De nuisances extérieures, le bruit du marteau piqueur, ça va 5 minutes, mais tous les matins quand il commence à 8 heures. Les tensions, les mauvais sentiments, les excitants, l'alcool, le tabac et autres excitants. Tout cela vient perturber, tétraquer les nerfs et ça débouche souvent sur une fatigue nerveuse. Quand on dit à quelqu'un « alors t'es fatigué », j'ai remarqué dans le midi, je suis normand d'origine, mais ça va, non, je suis fatigué. Là, on ne sait pas si c'est, parce que moi au début je disais « mais allez vous coucher ». Mais j'ai vite appris que c'était une fatigue beaucoup plus profonde, parfois amplifiée par une faiblesse ou une fragilité nerveuse congénitale, un héritage. On n'a pas forcément les meilleurs. D'origine physique, effort, surmenage, excès de travail, qui peut avoir les nerfs pour un excès de travail ? Suivez l'exemple du pasteur. Il n'y a pas d'excès chez un pasteur. Non ? Il sait se reposer. Non, mais on parle parce que... J'étais en Normandie dans une petite ville que je ne nommerai pas, Avranches, près du Mont-Saint-Michel. Et puis le Seigneur a permis que l'œuvre se développe et de... 12 personnes, on est passé à 50 personnes. C'est toujours réjouissant. Hein. Et puis on a ouvert une autre ville qui s'appelait Saint-Hilaire-du-Harcouët. Elle s'appelle toujours, mais il n'y a plus l'œuvre. Puis j'ai ouvert une deuxième ville, Vire, où en l'espace de quelques semaines, on a eu plus de 50 personnes nouvelles. En sorte que j'étais heureux, je servais le Seigneur. Et j'emmenais avec moi des jeunes, on chantait, on distribuait, on faisait de l'évangélisation dans les rues. J'en étais arrivé à 5 réunions le dimanche. Un culte à 8h30 le matin, un culte à 10h, 3h réunion d'évangélisation, 5h une autre réunion. Puis, parce que ça ne suffisait pas, on faisait jeûne et prière le midi. C'est vrai que ça pouvait ne faire que du bien. J'ai commencé à avoir les nerfs, crise d'asthme, j'ai failli mourir. Et là, on dit, pourquoi, Seigneur ? On peut être chrétien, on peut être pasteur, on peut travailler pour lui et avoir un surmenage. Parce que nous, on est champions, on est plus forts que Dieu. Lui, il faut qu'il se repose au 7e jour. Mais nous, non. Apprendre à se reposer. D'où trouble du sommeil, manque de repos, de détente, c'est tout un réapprentissage, mais l'ennui et l'oisiveté, les mêmes effets. La maladie, le bruit, les abus, puis au niveau familial, les difficultés de communication. Je passe sur quelques flashs, difficultés matérielles, négligence, oubli, faut-il le dire, infidélité. Tension, éducation des enfants, car c'est souvent à l'arrivée des enfants et l'éducation des enfants qu'il y a un stress, stress amplifié par parfois la mise à l'écart du mari. Mais je sais que pour vous à Sainte-Agne, ce n'est pas le cas. Morale, déception de la vie, déception au travail, humiliation, conflit, c'est-à-dire opposition, heurts avec un patron, un responsable, son collègue, mais conflit aussi dans la communauté. Je sais que vous n'avez jamais de conflit avec les sœurs et les frères. les épreuves, les incompréhensions, puis les d'origine psychique, spirituelle, mauvaise conscience, culpabilité. Quelques flashs. Je m'arrête maintenant sur le deuxième point de notre réflexion, symptômes, réactions. Les plus fréquents, rassurez-vous, si vous rencontrez un des symptômes, pas de panique, il en faut plusieurs, et sur une certaine durée. Les maux de tête. Si votre épouse dit « j'ai mal à la tête », rassurez-vous, ce n'est pas en relation forcément avec le stress. Vertige, nausée, troubles gastriques, intestinaux, douleurs cardiaques, hausse tension artérielle, mauvais fonctionnement des reins, vessie, etc., difficultés sur le plan sexuel. Alors, pourquoi j'énumère ces points? Parce que parfois on dit « mais pourquoi ?» Mais on ne s'arrête pas pour réfléchir à la souffrance. Douleur dorsale, faiblesse générale, tremblement, transpiration anormale, rougeur cutanée, froid aux mains, aux pieds. Ce n'est pas parce que, mesdames, vous avez froid aux pieds le soir que vous couchez que c'est en raison du stress. Hein. Mauvais sommeil, tendance aux larmes, saut d'humeur, irritabilité, diminution de la faculté de concentration, perte de mémoire. On ne retrouve pas, heureusement, dans chaque usure nerveuse l'ensemble de ces symptômes, parce que là, ça ferait mal. C'est suffisamment pénible d'en avoir quelques-unes. Trois phases dans les réactions. Phase d'alarme, nervosité, mal-être, irritabilité. Phase de résistance, on se justifie, on trouve des excuses. Non, non, mais c'est de passage, on lutte pour en sortir. Et là, on surmonte. Je suis bon. Ou on subit, je craque. Troisième phase, la phase d'épuisement, on craque. Et c'est souvent à cette troisième phase qu'on commence à dire qu'est-ce que je dois faire. Et c'est ça le dommage. C'est d'attendre la troisième phase, quand ça craque, de réfléchir à ce qu'il faut faire. Alors qu'il y aurait une réaction saine de se dire à un moment donné, c'est pour ça que je suis venu ce soir. C'est pour vous dire, réagissez à la première phase lorsque vous sentez qu'il y a nervosité. Alors, je voudrais vous rassurer, ne mettez pas de coup de coude à votre mari. N'essayez pas de faire comprendre à l'autre que ça, ça le concerne. On verra que s'il y a un message à passer, jamais avec le coude et encore moins avec le pied. Oui, le Seigneur nous parle d'imposition des pieds, d'imposition des mains et jamais d'imposition du pied. Hein? On le comprend. Alors, le stress, dans sa ou ses premières phases, peut être positif lorsqu'il nous permet d'être moteur pour réagir et se surpasser, pour clarifier les situations, élaborer des solutions, puis remporter des victoires. Mais c'est souvent avec l'aide du Seigneur, parce qu'on peut compter sur la force de caractère, mais on verra qu'on est vite limité. Pourquoi ? Parce que le stress a souvent des conséquences négatives, tout simplement parce que la nature humaine est mal armée. Oui, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si vous avez lu ça un jour dans un livre, mais que les œuvres de la chair, de la nature humaine, comment c'est déjà, c'est... Non, vous n'êtes pas au courant. Mais tout ce qui est confrontation, colère, animosité, dispute, jalousie, tout cela vient de notre nature. Et n'essayez pas de... Quelqu'un me disait un jour dans sa prière, « Seigneur, détruis ma nature... » Que je sois tranquille. Non ! Vous en avez besoin. Je dis souvent à mes braves grand-mères et grands-pères, puisque je leur fais régulièrement des réunions, j'ai un bon auditoire. Et alors qu'elles me disent « Ah, on ferait mieux de partir », je leur dis souvent « C'est pas le moment, sinon je le saurais. » Mais... quand le Seigneur dit que quand le blé sera mûr, alors on va l'engranger. Mais le Seigneur n'a pas encore donné son heure et il a encore besoin de votre paille. Parce que tant que le blé n'est pas mûr, il est encore sur la paille. Alors quand je dis il est sur la paille, ce n'est pas l'expression sur la paille, hein. Mais il est porté par la paille, que je fasse attention, il est porté par la paille. Et la paille peut être rugueuse, elle peut être jaunie, mais à la limite, plus c'est rugueux, plus c'est jauni, plus on sent que c'est le fruit qui est mûr. Que le Seigneur nous aide à dominer notre nature, mais pas à la détruire. C'est pour cela qu'il dira face à notre nature, je vais vous proposer une énergie, le fruit de l'esprit. Et là, il nous développe, vous connaissez le fruit de l'esprit? Oui, allez, citez-moi quelques facettes de ce fruit extraordinaire. Citez-moi. L'amour. Alors, regarde, ça, je suis comblé ce soir. L'amour, la joie. Alléluia. Tous ces ingrédients extraordinaires. Mais Seigneur, ça, je ne veux pas le lire. Ce n'est pas un texte pour moi. Ce n'est pas un récit biblique. Je peux le lire tous les matins en me levant. Mais je voudrais, Seigneur, que quand tu dis « je veux que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite », il y a quelque chose là que je dois saisir pour ma vie. Afin que dans les moments difficiles de stress, alors il y ait cette dimension de patience, de maîtrise, de douceur. Ouais, quand l'autre il m'a fait une queue de poisson. Alléluia. C'est magique. Vous savez, quand je me tape sur le doigt, je ne dis jamais Alléluia. Mais il faut une maîtrise pour ne pas dire n'importe quoi. Le Seigneur veut travailler au quotidien de notre vie. Et le stress, ce n'est pas à la réunion, c'est au quotidien. Le stress, quand il rentre dans sa troisième phase, paralyse. Dans le sens où il nous amène sur un sentier d'indécision, d'incertitude, d'instabilité, de confusion, sans parfois que nous nous en rendions compte. Il engendre, non, oui, le mensonge. Parce qu'on est là à s'excuser, mais non, c'est pas vrai. Et on ne le prend pas, on ne l'interprète pas comme un mensonge, parce qu'on le... On l'utilise comme une excuse. Mais en réalité, on ferait mieux de dire « c'est vrai ». C'est vrai. Vous savez, quand l'Épître aux Hébreux nous souligne l'approche que nous devons avoir auprès de notre Maître, l'Épître aux Hébreux nous dit « approchons-nous d'un cœur sincère ». Et les acteurs grecs, ou romains d'ailleurs, quand ils jouaient de la comédie, se faisaient un masque de cire. Puis quand ils avaient fini de jouer la comédie, ils enlevaient le masque de cire. Alors ils étaient sans cire. Ce qui a donné naissance au mot « sincère ». Sans masque. Arrête de jouer la comédie. Quand il y a une souffrance, quand il y a un problème, soit vrai. Et si on ne fait pas attention, on peut laisser germer le mensonge. Puis ça ira en crescendo, la colère, la violence, la dureté. Pas à son égard. À l'égard en particulier de ceux que l'on aime, les nôtres, nos proches. Surtout quand quelque chose ne passe pas avec les autres, exemple au travail. Alors cette agressivité ressort sur ceux que l'on aime comme s'ils étaient des punching balls. Dégradation des relations, insomnie, migraine, ulcère. Je ne veux pas vous ficher la panique et vous donner des boutons inutiles. Mais il y a aussi la fuite. La fuite dans le travail. Alors on est stressé par le travail, et pour se justifier, on va encore plus dans le travail. Et bien sûr, si on est stressé, on dit à ceux que l'on aime, « Mais tu comprends rien, tu vois pas le boulot que j'ai. » Et on est dans la spirale. Alors, on peut se faire piéger par l'activisme. Je donnais ce témoignage de la multiplication des activités. Et c'est quand j'ai traversé ces moments difficiles, physiquement, que j'ai commencé à comprendre ce que me disait mon maître, déjà depuis longtemps. Je l'avais lu, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je forme des anciens. Il n'est pas bon que tu délaisses la prière, la méditation, pour t'occuper des choses qui... C'est pas facile d'apprendre. J'étais exigeant et dur. Si je parle de moi, il en est resté, je vois Gérard qui me sourit. Vous savez, j'étais formé à une école où non seulement il fallait que tout soit au carré, mais que les angles soient tranchants. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Et parfois, lorsque j'étais aux réunions, que mon formateur, que je ne nommerai pas, prêchait, tout le monde disait, qu'est-ce qu'on va se prendre comme pavé ce matin? C'était mai 68, mais à l'église. Et j'étais baigné dans cela, et quand j'ai commencé à voir l'œuvre dont je vous ai parlé à Avranches, je vous ai dit que de 10, on était monté à 50. Mais quand je suis arrivé, on n'était pas 10, on était 15. J'ai commencé à envoyer parce qu'il fallait que j'exprime toute la dose qui était en moi. Et de 15, on est passé à 12. Seigneur, tu sanctifies le peuple. De 12, on est passé à 10. Seigneur, tu purifies ton troupeau. Oui, à l'allure où j'allais me retrouver avec moi et moi-même. J'étais pas encore sûr de bien m'entendre. J'étais dans mon bureau, un petit bureau que j'avais fait en frisette, lambris. J'aimais bien mon petit bureau avec des petites lampes. Quand je m'asseyais, je fermais les yeux. Seigneur, sois béni, sois béni. Une seule fois dans mon ministère, une seule fois, j'ai entendu Dieu me parler d'une manière audible. La voix était calme, sans stress. Je suis sûr que c'est lui. Puisqu'il m'a dit, tu n'aimes pas les âmes comme je les aime. J'ai touché la cloison. Vous riez, mais je riais pas, moi. Vous savez, je comprends ce gaillard qui a vu la main sur la... Moi, j'ai pas vu la main, mais j'ai entendu la voix. Tu n'aimes pas les âmes. Ce jour-là, j'ai pleuré. Je me suis humilié. C'est ce jour-là que mon ministère a commencé. J'avais déjà prêché, mais je n'avais pas encore aimé comme lui peut aimer. Apprends-moi à m'aimer et à aimer afin de me respecter et de respecter les autres pour mieux les aider. Amen. On peut fuir dans la prière. Comment dans la prière? Vous savez, au jardin de Gethsémané, vous voyez un peu dans l'écriture, jardin de Gethsémané, les disciples sont là, le moment est... On sent que le moment est pesant. On reviendra sur ce texte parce qu'il y a des mots forts. Mon âme est triste jusqu'à la mort, dira Jésus. L'angoisse. la coupe jusqu'à la lie, des mots, la sueur de sang qui tombait comme la sueur qui tombait comme des gouttes de sang à terre. Il y a des choses très fortes d'angoisse, de dépression. Alors j'emploie volontairement ces mots parce qu'on dit oh non, pas Jésus. Quel regard j'ai sur ceux qui souffrent. Et que dit Jésus? Il demande une chose à ses disciples. Qui peut me le dire? Il leur demande de prier. La prière peut devenir une fuite. Il leur dit « Veillez ». Et il reviendra en disant « Vous n'avez pas veillé une heure avec moi ». Et il dira « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». On me dirait « Oui, mais quand il disait « veillez », ça voulait dire en même temps « prier ». Non, parce que le Seigneur dira « Veillez et priez ». Les bases, le fondement de l'Église primitive était sur quatre axes. Il persévérait, un, dans quoi? Dans quoi? Il se méfie. Dans l'enseignement des apôtres, un. Deux, dans la communion fraternelle. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a du boulot, hein. Ils se voyaient pas une fois le dimanche matin et le dimanche après-midi dans la semaine. Ils se voyaient tous les jours. Oui. Il persévérait, trois, dans la fraction du pain. C'était le moment de mettre les choses en ordre devant le Seigneur et devant les autres, ses frères. Amen. Puis après, ils avaient de quoi prier. Mais si on ne veille pas, alors je ne dis pas qu'il ne faille pas prier. Mais si on ne veille pas à une bonne relation avec ses enfants, son épouse, si on ne veille pas à ce qui est nécessaire dans les priorités de la vie, alors on peut toujours prier. Il y a des monastères qui sont remplis de prieurs. Et le Seigneur veut que nous soyons des soldats qui, à la brèche, veillent. Et s'il y a l'épée d'une main, il y a de quoi combattre de l'autre. Il y a de quoi travailler afin que nous soyons attentifs aux circonstances et que le stress ne nous surprenne pas. Vous savez, ce n'est pas évident. J'ai des amis. J'ai un ami très pris par son travail et vit à 100 à l'heure. Et quand il rentre, il est à peine rentré, il pose ses affaires, et là, hop, il ouvre sa Bible, il prépare son message pour le soir, pour le dimanche, il bosse. Et hop, après il va à la réunion, puis le matin, il va à 6 heures du matin prier. Puis sa femme lui a dit, un jour tu rentreras de la réunion de prière, et je ne serai plus là. Parce que tu ne me vois même plus. La fuite, c'est important ce que nous faisons pour le Seigneur. Mais le couple, la famille, c'est ce que le Seigneur a voulu en premier, afin d'être un flambeau et un témoignage. Si nous ne veillons pas à certaines choses, on peut se laisser piéger par une suractivité même spirituelle. Veillons à ne pas négliger notre famille, notre santé, parce que le Seigneur y veille. Amen. Ça ne vous gêne pas que je vous parle de ça, hein. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Quelques conseils pratiques. Vous connaissez Élie? Le prophète, oui, qui connaît Élie le prophète? Oui, il se méfie, maintenant il lève le doigt comme ça. Vous savez, celui qui a rétabli l'autel de l'Éternel, celui qui a vu le feu du ciel descendre sur... Ah, moi j'aime bien ce moment parce qu'il l'a arrosé. Hein. Nous, on voudrait dans la bénédiction un petit peu mettre de... tout ce qu'il faut pour activer, mais lui, il l'a arrosé, lui. Il voulait que, quand c'est Dieu qui bénit, ça, c'est indéniable. Donc le feu du ciel descend. Il élève l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il élève le grand Dieu face aux prophètes de Baal. Il réclame la pluie, après 3 ans de famine. Et puis la pluie arrive. C'est pas formidable, ça? Ouais. Une phrase. Alors, je voudrais pas que vous preniez mal, mesdames, mais d'une dame. Comment elle s'appelait déjà? Ah, vous la connaissez? Une phrase. Et comment on retrouve Élie? Alors, on reviendra sur lui parce qu'il a vraiment tous les symptômes de la dépression. Il commence par s'isoler, il laisse tomber son serviteur, je ne veux plus te voir, hein, et puis il s'en va sous un genêt, et puis il marche dans le désert, et puis il se couche, et puis il s'endort, et puis il veut mourir, enfin voilà, on a vraiment... Je vais m'arrêter ce soir sur 4 choses pratiques que l'ange de la part de Dieu va l'amener à faire. 4 choses pratiques. La première de ces choses, c'est qu'il va l'amener à travailler l'écoute. L'ange arrive, pose sa main, le touche, puis il lui dit « Lève-toi, mange. » Il s'est levé, et quand il a ouvert les yeux, il a vu du gâteau, pas un bout de pain, du gâteau, sur une pierrade. Oui, des pierres chauffées. Oui. Ah oui, mais attendez, c'est que... Il était moderne, l'engin. Et puis, il l'a cadré. C'est-à-dire qu'il lui a appris à gérer son temps. Il y a un temps pour manger, un temps pour boire, un temps pour dormir, puis après tu marcheras. Et quand il l'a réveillé, il y a dû se dire « Où je vais ?» Enfin, c'est pas marqué, donc je voudrais pas, mais il lui a dit « Tu vas où ?» Tu vas te recoucher. Parce qu'il avait encore besoin de dormir. Et donc il s'est recouché. Et ce n'est seulement après qu'il a marché. Et le chemin était long, mais il a marché. Et il a été un instrument pour bénir. Et Dieu l'a béni de manière extraordinaire dans une rencontre au creux du rocher. Le Seigneur lui a fait un test de stress. Un coup de tremblement de terre. Boum ! Et Dieu lui a dit, c'est pas moi. Puis après, il y a eu le vent. Ouh ! C'est pas moi. Dieu nous teste pour savoir comment nous réagissons. Il y a eu le feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Alors il y a eu le murmure doux et léger. Je voudrais que tu prennes le temps. J'ai des choses douces à te dire. Tu ne te rends pas compte, mais tu es piégé par l'activisme et tu ne sais plus écouter. Tu ne sais plus écouter. Vous connaissez les 5 verbes des premiers versets du livre des Proverbes? Oui, vous les regarderez. Si vous les... Bon, lisez-le. Tiens, Nathanaël, lis-nous, viens là. Lis-nous les 5 premiers versets du livre des Proverbes. Il est bien ce petit. Heureusement qu'il n'est pas venu avec son recueil de cantiques. Hein, parce que... voilà. Allez, juste commence les là. Verbes. Et puis chaque fois qu'il y a un verbe, vous dites stop.
Proverbe Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître...
Stop! Connaître. Non, mais c'est pas facile, c'est pas compliqué, je vous dis après.
Pour comprendre.
Ah, oui, parce que savoir, c'est une chose, comprendre, c'est autre chose.
pour recevoir.
Ah, ça c'est l'expérience, recevoir.
Pour donner.
Ah, ça c'est le service, donner.
Eh oui, que le sage écoute.
Ça c'est le secret. Tu veux connaître ? Tu veux comprendre ? Tu veux recevoir ? Tu veux donner ? Viens à l'école. Apprends à écouter. Apprends à écouter. Et voilà, c'est l'école que... C'est pas compliqué. Je vous ai dit que c'est des choses pratiques. Et dans le stress, voilà où le Seigneur nous amène. Et parfois, il nous arrête. Et parfois, il dit à Jézabel, sors-lui un petit message. Là. Alors maintenant, je dis, Seigneur, je veux plus entendre Jézabel. Mais s'il y a des circonstances, c'est pas Dieu qui vous abandonne, il vous interpelle. Et il nous dit, arrête, réapprends à écouter pour mieux gérer ton temps. Nous sommes prisonniers de voleurs de temps. Écrivez sur un papier tout ce qui vous vole votre temps. Faites ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a volé le temps ? Alors, je ne parle pas du téléphone, je ne parle pas de la télévision, je ne me permettrai pas. Quoique, ce sont des gourmands. Mais parfois, vous savez, ces chrétiens sympathiques, ces gens qui viennent vous voir, je viens passer le temps. Et vous mangez le vôtre. Ouais. Réfléchissez à ce qui vous vole le temps. Pour redonner le temps au vôtre. Vous savez, parfois, on dit, oui, mais moi, c'est le Seigneur en premier. C'est vrai qu'il est dit, cherchez premièrement. Mais le Seigneur dira qu'il n'y a rien qui fasse rupture dans vos relations familiales, que rien fasse obstacle à vos rapports. Puis ensuite, vous vaquez à la prière. C'est-à-dire que le Seigneur veut nous donner des priorités sans négliger notre relation spirituelle. Nous, on met ça par échelle hiérarchique. Lui, il nous parle de priorité. Et ce qu'il veut, c'est qu'en cherchant premièrement le royaume de Dieu, alors tout nous sera donné par-dessus. Il faut qu'il y ait des priorités dans notre vie. Que le Seigneur nous aide. Ça, c'est la première chose qu'il fait. La deuxième chose, c'est que près du chevet, il y avait un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Il y avait un gâteau cuit près des pierres chauffées. Donc, il se réveille. Dans le désert, c'est pas évident de trouver un gâteau. Je sais pas vous, mais un jour, on venait d'ouvrir une autre ville. Et j'étais fatigué. En plus, mon épouse n'est pas là. Alors, quand ma femme n'est pas là, moi, je suis paumé. Vous ne le répétez pas. Hein. Et je n'avais pas le moral. Au point que je n'avais pas envie de me faire à manger, pour vous dire. Et j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, tu vois tel problème. Je dépose ça à tes pieds. Puis j'ai fini ma prière en disant... Et Seigneur, enfin, j'ai pas le courage de me faire à manger. Je sais pas si vous dites des choses comme ça au Seigneur, mais moi, je lui fais part de tout. Et j'avais à peine terminé qu'on sonne à ma porte. Le voisin frappe et me dit, j'ai pensé que vous êtes seul, peut-être vous auriez aimé manger un peu de pâte avec du jambon. Il arrive avec une assiette de... Pas toute chose, ça fumait une belle tranche de jambon. Et puis, tout ce qu'il fallait autour, j'ai regardé. Et j'ai fait, merci Seigneur. Il m'a regardé. J'ai dit, non. Il a dû se dire, il se trompe d'étage. Vous savez que notre Seigneur est merveilleux. Vous savez, il est merveilleux. Nous nous fatiguons parfois. Dieu, au travers de Jéthro, dit à Moïse, tu te fatigues, mais tu fatigues le peuple. C'est rien de se fatiguer, mais on fatigue les autres en plus. Hein? Ça t'arrive, toi, Nathanaël, de fatiguer les autres? Seigneur, accorde-nous ta grâce. D'ailleurs, c'est pas tant la nourriture, c'est la qualité de la nourriture. Et là, on parle la nourriture physique, hein? Mais la nourriture physique, je sais pas si Isabelle a préparé à manger pour ce soir. Oui. Ça dépend de la prédication. Mais ce que j'aime, c'est le Seigneur qui dit, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire que le repas, c'est la communion, c'est la joie. Moi, ce soir, je vous avoue, je finis vite, là, j'en ai encore pour trois quarts d'heure. Et je vois qu'on fait ça. Ce que je veux dire, c'est la richesse. Avec notre famille, la joie du repas. Avec nos enfants, la joie du repas. C'est vrai qu'à la cantine, on court. C'est vrai qu'à la cafette, on court. Mais Seigneur, donne-moi de retrouver de la joie de la communion avec les miens et avec ceux qui m'entourent. Alors que dire du repas spirituel ? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, vous savez pourquoi je connais les psaumes par cœur ? Quand j'étais gosse, je faisais tellement de bêtises qu'à chaque fois, on me faisait copier les psaumes. Ne faites jamais ça. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Que me sert-il de lire ce livre ? Si je n'y trouve plus de plaisir, rafraîchis le plaisir. Donne-moi du plaisir à me nourrir. Et vaut mieux en lire moins, mais trouver un plaisir extraordinaire. Seigneur, rafraîchis. Rafraîchis ce plaisir. Afin que, comme les disciples d'Emmaüs, au fur et à mesure que tu parles sur le chemin, je sens que ça se réchauffe là-dedans. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin des choses simples? Voilà ce que le Seigneur veut faire, celui qui donne à tout simplement et sans reproche. Et puis, se désaltérer, parce que là, franchement, il faut que j'y aille. Quand vous vous désaltérez, il y avait une cruche d'eau, vous rendez compte? Il n'est pas dit si elle était fraîche, mais je pense qu'elle l'était. Une cruche d'eau dans le désert, ça, faut le faire, hein? Une cruche d'eau. Vous savez que c'est l'élément indispensable si on ne veut pas se déshydrater. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Et Jésus lui-même a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, je lui donnerai un demi-verre d'eau. Non, c'est quoi ? Des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire qu'on reviendra sur le sujet demain, c'est-à-dire qu'il comble le vide. Il comble le vide. Ce n'est pas le fait de nous donner à boire, c'est le fait de combler le vide. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, Lamentations 3:22. Seigneur, ce soir, je veux boire à cette promesse. Psalmiste dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Vous savez que, moi je ne savais pas, quand on sourit, souriez-moi, ça active les glandes salivaires. Vous saviez ça? Mais quand on fait la tête, ça bloque les glandes salivaires et la mauvaise humeur finit par dessécher la langue. Et quelqu'un qui est stressé finit par avoir la langue collée. J'ai un collègue qui m'a dit, j'étais dans une réunion, j'étais tellement stressé qu'à un moment donné, j'ai dû m'arrêter pour demander à boire. Ma langue se collait. Vous savez, il y a des moments, c'est pas, faut dire que l'auditoire en face, je ferme la parenthèse, je fais des formations, souvent ceux qui m'écoutent me regardent, et puis hop, ils me font ça, ça voulait dire que la parenthèse est fermée. Tant que je me suis tu, dit le psalmiste, je roue mes guets, version du Tarn, je roue mes guets toute la journée, ma vigueur, ma sève n'était plus que sécheresse comme celle de l'été, et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions, mes écarts, et tu as effacé la peine de mon péché. Et puis, on termine par le repos, se reposer. Il lui a dit, il faut te reposer. Vous savez, le repos, c'est pas simplement le fait de dire, on peut dormir, puis ne pas se reposer. Et on peut moins dormir, et bien se reposer. C'est la qualité du repos. Savoir rentrer dans sa chambre le soir, je ne sais pas comment vous faites, mais moi je me débarrasse des vêtements de la journée. Je ne sais pas vous, vous couchez tout habillé peut-être. Mais le Seigneur voudrait qu'on se décharge du vêtement de tristesse, de soucis. Pouvoir dire, Seigneur, avant de me coucher, je voudrais faire un peu le point sur tout ce qui en ce jour m'a attristé, m'a peiné. Peut-être même penser à ce que j'ai pu dire ou faire qui a peiné à attrister les autres. Et je voudrais, avant de me reposer, Seigneur, enlever cette chemise, enlever ce manteau qui va me donner des angoisses et des cauchemars. Et vous savez, quand le livre de l'Ecclésiaste dit que les rêves naissent de la multitude des occupations, cela nous montre que c'est ce qui s'est passé dans la journée qui va conditionner la qualité de notre sommeil. Je voudrais, Seigneur, me déshabiller, me doucher, spirituellement parlant, apprendre simplement à tout déposer pour apprendre la qualité du sommeil. Alors, je peux me réveiller la nuit, j'ai envie de le louer. Je peux me réveiller tôt le matin, je sais ce que je peux partager. Que le Seigneur nous aide à faire ces choses simples et qu'il nous accorde sa grâce. J'ai déchargé son épaule du fardeau. Vous connaissez ce texte? Oui. Et ses mains, c'est champion, hein. Et ses mains ont lâché la corbeille. J'ai un ami, on dormait au troisième étage d'un hôtel, et il gardait sa valise à la main. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu poses pas ta valise? Il m'a dit, je ne voudrais pas faire de surcharge dans l'ascenseur. Non, mais moi je riais pas parce qu'il était là, il a toujours sa valise. Non, c'est une histoire. Mais simplement pour vous dire qu'il est temps de lâcher la corbeille. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ce berger veut réchauffer mon cœur par sa parole. Ce berger voudrait que simplement je sois à ses pieds ce soir et je discute avec lui. Je ne sais pas quel est ton prénom. Peut-être tu t'appelles Marthe. Ça me rappelle quelque chose. André, Albert, Gérard. Je dis des noms au hasard. Tu t'agites et tu t'inquiètes. Pour peu de choses. Regarde Marie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les tâches ménagères. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bichonner la qualité de l'accueil. Ça voulait dire qu'à un moment donné, il y a des priorités si tu veux rester paisible. Viens au pied du maître. Dans son murmure doux et léger, il a quelque chose à te dire. Il a quelque chose à te communiquer. Heureux les pauvres en esprit. Littéralement, c'est bien heureux. Heureux, c'est satisfait. Je veux te faire du bien pour te satisfaire, afin que tu puisses prendre conscience de ta pauvreté spirituelle. Voilà ce que veut dire heureux, les pauvres en esprit. Je veux te faire du bien pour te satisfaire si tu prends conscience de ta pauvreté spirituelle, afin que tu découvres toutes les richesses du royaume de Dieu. Je termine par cet exemple. Vous connaissez Gédéon, à qui Dieu a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant ». Il a du mal à comprendre, il a dit « Répète Seigneur, tu as dit vaillant zéro ou... ?» Parce qu'il ne voyait pas. Et puis il lui a dit encore « Mais tu vas aller avec cette force que tu as ?»« Oui Seigneur, ma famille est la plus pauvre en Manassé, moi je suis le plus petit de la famille, je n'ai pas eu de chance. » Puis tu nous dis « Vaillant héros ». Où était Gédéon quand les Madianites, tous les ans à la même époque, observaient avec leurs jumelles de l'autre côté de la vallée? Et quand ils avaient tout engrangé, ils venaient, ils piquaient tout. Où était Gédéon? L'Écriture nous dit, il battait le meilleur du blé, le meilleur du fruit. Il le battait non pas sur l'air en face de l'ennemi, mais au pressoir, qui était souvent taillé dans le creux du rocher. Au pressoir, Gethsémané, pressoir à huile. Je me sens faible, Seigneur, mais je me cache en ta présence. Je viens là où tu as pris conscience de tout le poids de mes péchés, de ma misère, de mon stress. Je veux te confier mes nerfs ce soir. Je veux te confier mon manque de rigueur qui m'amène à être stressé, pour que tu m'accordes dans ta grâce une paix profonde et que tu me dises, malgré ma misère, ma petitesse, ma pauvreté, mon manque de foi, où sont les miracles? Tu es pour moi un vaillant héros parce que tu penses aux fruits. Tu veux préserver la paix et la joie que j'ai mise au fond de ton cœur. J'aimerais que nous nous tenions dans le recueillement et que nous laissions quelques instants notre bon berger nous parler. Comme Marie au pied du Seigneur, comme la brebis qui est en train de pénétrer jusque devant la porte de la bergerie. Oh, mais rassure-toi, la porte n'est pas faite de bois. La porte, c'est ton Seigneur qui dit « Je suis la porte ». Il était assis à l'entrée de la porte et chaque brebis passait sur ses genoux. Et la première chose qu'il regardait avec sa main, « As-tu de la fièvre ? As-tu de la fièvre ? Y a-t-il le stress ?» Alors il prenait sa corne d'huile. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Si tu as de la fièvre, si ta vie est fiévreuse, si tu es tourmenté par les interrogations, s'il y a des impasses, de la tension dans ta vie, dans ta famille, viens au pied de ton Seigneur, simplement. Dis-lui simplement. Seigneur, il y a ça qui ne va pas. Je voudrais que ça change. Alors le berger passe sa main sur la brebis, sur sa tête, sur son corps, lui enlève les épines des pattes et lui accorde une onction particulière parce qu'elle a de la fièvre. Seigneur, tu bénis mes sœurs. Tu bénis mes frères, tu bénis chaque famille que nous représentons. Et je te demande ce soir que chacun de nous, nous devenions des flambeaux qui témoignons de la paix et de la tranquillité qui sera notre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et ça, c'est un témoignage dans notre monde stressé, bouleversé et plongé dans l'inquiétude. Seigneur, bénis-moi, bénis-nous. Nous avons tous besoin de toi et nous croyons que tu nous fais du bien. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.